Bonjour, c'est une joie pour moi de pouvoir être de nouveau avec vous ce matin. Toujours impressionné par la qualité de vos chants, vous savez chanter. Et ça fait du bien d'entendre une église qui chante et pas simplement les gens devant chanter, si vous voyez ce que je veux dire. Toujours aussi une joie de voir votre passion pour la mission auprès, comme la mission au loin. Je vous encourage vraiment à persévérer là-dedans. Vous êtes, je crois, bien en avance sur le peloton des églises évangéliques de France quant à votre préoccupation pour le salut de ce qui se passe ailleurs, au-delà de nos frontières. Et c'est un signe de maturité spirituelle, votre générosité pour les nations. Et vraiment, je vous encourage à persévérer dans cela. Ce matin, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui est la nouvelle naissance. La raison pour laquelle on en parle, c'est parce que d'abord ça a été une préoccupation dans ma vie, c'est une question qui m'a taraudé pendant des années. Je ne suis pas né dans le milieu évangélique, je suis né dans un milieu réformé, et quand j'entrais dans le milieu évangélique, des frères et des sœurs bien intentionnés me prenaient par l'épaule en disant « Raphaël, est-ce que tu es né de nouveau ?» C'est une vraie préoccupation, parce que la Bible dit, si nous ne sommes pas nés d'en haut, nous ne verrons pas Dieu. Alors je disais, je ne sais pas, tu me dis, ah mais c'est à toi de le savoir. Et j'allais de réunion en réunion et d'église en église pour essayer de trouver une réponse à cette question, suis-je né de nouveau ? Et peut-être que ça vous surprendra, mais personne n'arrivait à me répondre, jusqu'au jour où, enfin, j'ai entendu une prédication sur ce sujet, je me suis dit, alléluia, je vais enfin connaître la réponse. Et le prédicateur disait ceci, si tu veux savoir si tu es né de nouveau, c'est simple, parce que la Bible dit que celui qui est né de nouveau est né d'eau et d'esprit. Quand je suis allé le voir après le sermon, et j'ai dit, est-ce que tu peux développer un peu ? Ben, d'eau, c'est l'eau, l'esprit, c'est l'esprit. Retour à la case départ. Je ne pense pas que Dieu s'amuse avec cette question-là. Je crois que Dieu est préoccupé par le salut de nos âmes. Je crois qu'il est préoccupé par cette question-là. D'ailleurs, c'est pour ça que nous lisons dans l'Écriture le verset suivant. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. » Je pense que Dieu veut que nous soyons rassurés. Je ne pense pas qu'il soit intéressé que cette question nous taraude toute notre vie en disant « Est-ce que oui ou non je suis né d'en haut ? Est-ce que oui ou non je suis dans la vérité ? Ou est-ce que je suis vraiment à côté de mes pompes ?» Je crois que c'est une question qui préoccupe Dieu et c'est pour ça qu'il veut nous rassurer. Et ce matin, ce que je voudrais, c'est qu'on plonge nos regards dans cette première épître de Jean et nous allons la survoler. Je remercie déjà par avance mes deux lecteurs qui liront des portions importantes de cette épître-là, juste pour que nous puissions être rassurés, que notre cœur soit rassuré, que nous puissions sortir de là aujourd'hui en disant « Oui, oui, je suis né d'en haut, oui, je suis dans la vérité, et mon cœur est rassuré. » Mais peut-être aussi pour ceux qui se posent cette question, ceux qui sont taraudés par cette question, que votre cœur soit aussi rassuré, parce qu'aujourd'hui c'est encore le temps, encore le jour du salut. Et Dieu veut rassurer votre cœur. Dans cette épître de Jean, on nous propose trois tests. Trois tests pour tester notre foi, pour savoir si nous sommes de la vérité, si nous sommes effectivement nés d'en haut. Trois tests. Trois tests pour examiner notre cœur afin que nous répondions à cette question cruciale: suis-je né de nouveau, suis-je dans la vérité? Trois tests pour rassurer notre cœur. Le premier de ces tests, c'est le test théologique, et nous allons lire quatre passages qui seront affichés à l'écran, et mes lecteurs le liront. Le premier test, le test théologique.
Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle.
Notez bien, quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Deuxième passage.
Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde.
Encore une fois, quiconque confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Troisième passage.
Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui.
Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Le test théologique, c'est croire que Jésus est le Fils de Dieu. C'est confesser que Jésus est le Fils de Dieu, né de Dieu, engendré de Dieu, pour le salut des hommes. Alors quand on parle du Fils de Dieu, souvent les enfants nous disent: ok, Jésus est fils de Dieu. Ça veut dire qu'il a un père. Ok. Et donc, Marie, c'est la mère. La notion de fils est étrange. Comment est-ce que Jésus peut être fils alors qu'il n'y a pas de mère dans la Trinité? Vous comprenez? C'est une vraie question. Les enfants la posent. C'est une question théologique. Quand la Bible parle de fils de Dieu, et qu'elle dit que nous confessons Jésus comme fils de Dieu, elle dit deux choses. La première, c'est que fils de Dieu dans l'Écriture veut dire de la même nature que Dieu. Dans le sens fils de la même nature, qui partage la même essence. Et donc là, on parle bien de la personne de Jésus-Christ. Dans Jean 9, on a l'histoire d'un aveugle né. Et Jésus vient et lui donne la vue. Et c'est très intéressant de voir dans ce passage comment est-ce que ce jeune homme découvre la personne de Jésus. Au départ, quand on lui dit qui t'a ouvert les yeux, il dit l'homme qu'on appelle Jésus a fait cela. Ensuite, il est convoqué devant les pharisiens, on lui demande de clarifier ce qui s'est passé. Les pharisiens se disputent entre eux en se disant: comment est-ce que ce Jésus peut ouvrir les yeux d'un aveugle? Forcément, il doit venir de Dieu. D'autres pharisiens disaient non, il a un démon. Lui, il écoute la conversation et réfléchit. Il se dit, c'est vrai, ce qui s'est passé, c'est quand même pas piquer des hannetons. Et quand on lui demande qui t'a fait cela, il répond, il ne répond plus Jésus, cet homme. Il répond Jésus, le prophète. Parce qu'il comprend que ce qui s'est passé, et la personne de Jésus, est plus qu'un homme. Parce que Jésus fait des choses qui sont au-delà de la capacité de l'homme. Et il parle avec autorité, donc forcément, ce doit être un prophète. Les parents sont convoqués. Les parents ne veulent pas se mouiller. Les pharisiens demandent encore à ce jeune homme de se justifier. Comment se fait-il que tu as retrouvé la vue? Et puis plus il réfléchit, plus il se dit, c'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé. Il comprend que Jésus est plus qu'un prophète parce que Dieu est avec lui. Dieu est avec lui, Dieu est pour lui et il a fait quelque chose que personne n'a jamais fait. Donc il a la puissance de Dieu en lui, il est Dieu. Et à partir de ce moment-là, il est exclu de la synagogue. Mais Jésus le retrouve et Jésus lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ? » « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Et il dit « Qui est-il afin que je croie en lui ?» Et Jésus lui dit « Tu l'as vu, c'est moi. » Et à ce moment-là, il dit « Seigneur, je crois. » Vous voyez ? En l'espace de quelques heures, ce jeune homme comprend que Jésus est plus qu'un homme, qu'il est plus qu'un prophète, qu'il est Dieu, qu'il est son Seigneur. C'est ça qu'on entend lorsqu'on parle de Fils de Dieu. C'est de croire que Jésus est Dieu, incarné en homme. Qu'il est le Dieu-homme, l'homme-Dieu. Mais plus que ça, lorsqu'on parle de Fils de Dieu dans l'Ancien Testament, le Fils de l'homme, on parle de celui qui est venu pour accomplir la volonté du Père. On parle d'une mission. On peut lire par exemple.
Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Jésus est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Il est mort à la croix et sur la croix, il s'est chargé de nos fautes. Écoutez bien. Jésus est Dieu, ce qui fait de lui un être infini, parce que Dieu est infini. Ça va jusque-là? Quand Jésus est monté sur la croix, lui qui est infini, il a porté sur lui une infinitude de péchés. Parce qu'il est infini. Mais parce qu'il est homme, il partage notre nature. Il partage notre condition, donc il pouvait se charger de nos fautes, puisqu'il s'identifiait à nos fautes. Et donc lui qui est juste et infini est devenu notre péché, afin que nous, pécheurs, nous soyons justifiés devant Dieu. Et Jésus est mort à la croix, lui qui est infini, il prend une infinitude de péchés de façon à ce que nous puissions devenir enfant de Dieu, justifié par la foi. Non pas d'une justice qui viendrait de nous, mais d'une justice qui vient de lui. Donc quand on dit que nous confessons que Jésus est le Fils de Dieu, nous disons deux choses. La première, c'est qu'il est plus qu'un homme. C'est qu'il est plus qu'un prophète, c'est qu'il est Dieu. C'est que c'est l'homme-Dieu, que c'est Dieu-homme, c'est lui qui est infini et qui peut prendre une infinitude de péchés à la croix. La deuxième des choses que nous disons, c'est qu'il a fait ce chemin de la croix. Il est venu accomplir la volonté du Père. Il est devenu mon péché afin que moi, pécheur, je devienne juste devant Dieu. C'est ça confesser. C'est cela le test théologique. Maintenant. Pour beaucoup, c'est le seul test. Mais peut-être que ça vous surprendra. Jean, qui est le disciple bien-aimé, va plus loin. Il nous parle d'un deuxième test. le test social. Écoutez bien ce qu'il dit dans ce deuxième test.
Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.
Vous avez bien lu ? Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Deuxième lecture.
Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?
Encore une fois, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Troisième et dernier passage.
Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.
C'est le deuxième test, le test social. Le christianisme est radicalement différent des autres religions en cela que le christianisme nous demande à nous centrer sur l'autre. Satan est centré sur lui-même. Le péché nous invite à nous centrer sur nous-mêmes, alors que le christianisme nous invite à être centré sur les autres, sur l'autre. Comme si ma foi était pour les autres, d'abord. Et c'est pour ça que Jean est aussi sévère. On ne peut pas dire « j'aime Dieu » et en même temps haïr son frère. Ça n'a pas de sens. Ça fait de nous un menteur. On ne peut pas simplement s'attacher à ce test théologique en disant « j'ai signé la carte, j'ai levé la main, maintenant je fais ce que je veux. » Non, on ne fait pas ce qu'on veut. Satan fait ce qu'il veut. Le péché te pousse à faire ce que tu veux. Mais Dieu te pousse à aimer l'autre. Le christianisme, c'est se décentrer pour se centrer sur l'autre. Il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup, où on nous dit que lorsqu'on sera arrivé au ciel et que nous aurons les agapes, nous mangerons avec des fourchettes avec un très très long manche. Un manche tellement tellement long que ça sera impossible de se nourrir nous-mêmes, qu'on sera obligé de puiser là et de nourrir celui qui est en face de nous. Et de nous dire « apprenons à nous nourrir les uns les autres ici-bas ». Afin que nous ne meurions pas de faim là-haut. Lorsqu'on parle de l'amour, de quoi est-ce que l'on parle ? C'est vrai que quand on est en église, et on ne se le cache pas, on a des affinités. Il y a certaines personnes avec lesquelles on se réjouit de communier, puis d'autres n'accrochent pas forcément. Alors est-ce que ça veut dire que je ne l'aime pas, si ce n'est pas mon meilleur copain ou ma meilleure copine ? Lorsque la Bible parle de l'amour, Elle ne parle pas de l'amour naturel. Vous savez, l'amour naturel qui dit « fais-moi du bien, fais-moi du bien ». Un amour qui parle de mes sentiments, de mes émotions, qui part de toi et qui vient vers moi, qui est centré sur moi. Fais-moi du bien, fais-moi du bien. Tu m'aimes pas, pourquoi tu m'aimes pas? Parce que tu ne me fais pas du bien. Prouve que tu m'aimes. Comment? Fais-moi du bien. C'est un amour qui ramène à soi. C'est un amour qui est centré sur soi. Lorsque la Bible nous parle de l'amour, elle nous parle de l'amour surnaturel. L'amour qui part de moi et qui va à toi. L'amour qui donne. L'amour qui demande un effort. L'amour qui dit « je veux le meilleur pour toi ». Et c'est pour ça que l'amour peut être commandé. Parce que l'amour n'a pas son siège dans nos émotions, mais dans la volonté. Et je peux toujours choisir de vouloir le meilleur pour toi. Toujours. Toujours. Y compris pour mon ennemi. Je peux choisir de vouloir le meilleur pour mon ennemi. C'est pour ça que Jésus dit, si vous dites que vous aimez ceux qui vous ressemblent, les pharisiens, ils en font la même chose. Rien d'exceptionnel. Par contre, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Vous voyez que ça veut bien dire ce que ça veut dire, que tu peux vouloir toujours le meilleur pour quelqu'un d'autre. Est-ce que je le veux? Ça demande un effort. Vous voyez comme quoi le christianisme, il se révèle dans le fait que nous sommes centrés sur les autres et pas sur nous-mêmes. C'est la même chose dans le couple. On part avec un amour agapé. Ma femme a fait ses études avec une amie qu'elle a amenée à Christ pendant ses études. Et elle a enfin trouvé l'amour de sa vie. Jeff. Un amour, ce mec. Un amour. Et alors, on allait leur rendre visite, c'était leur première année de mariage, et ils étaient mignons, les deux, mignons. Et puis elle était dans le sofa, et puis lui, il était là, ma chérie, est-ce que je peux te faire plaisir? Elle a dit, oh, tu sais ce qui me ferait plaisir? Ce serait une petite tisane. Oh, ça me ferait tellement plaisir de te faire plaisir. Je vais te faire une petite tisane parce que ça me fait plaisir de te faire plaisir. Moi, je regardais ça avec ma femme. J'ai dit, attends le bonhomme. Attends. Attends, on va revenir dans 10 ans. C'est, hey, chérie, je t'ai ramené le café au lit. T'as plus qu'à le moudre. Hein? J'ai dit, attends un peu. Hein? Ça va. Tu verras la translation vectorielle, hein, de l'amour surnaturel à l'amour naturel. Hein? Ça se fait tout seul. T'as rien à faire. Ça glisse tout seul. Hein? C'est vrai que le péché s'immisce très facilement dans nos relations. On part avec de bons sentiments et tout d'un coup ça devient « fais-moi du bien ». Tu m'aimes plus, tu me fais plus de bien. Tu me fais plus de bien. Je te quitte. Parce que tu me fais plus de bien. Et à un moment donné, on se fait reprendre par le péché qui nous invite à nous centrer sur nous-mêmes. Alors que nous devons toujours nous centrer sur l'autre. Alors certains me disent, ouais, mais qu'est-ce que tu fais lorsque tu n'as plus d'amour pour l'autre? C'est une vraie question. Jean répond.
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
Car Dieu est amour, et l'amour est de Dieu. Si tu n'as plus d'amour pour ton prochain, retourne à la source. Retourne à la source. Il y a des chrétiens qui se contentent d'une connexion Internet au ciel qui est de l'ordre du... Vous savez le modem qu'on utilisait à l'époque, vous savez, pour les anciens, ça avait... On avait 56 kilos, là, le cœur battait, là, on disait 56 kilos, ça débite à fond, quoi. C'est des gouttes. 3 heures pour une page internet, tu sais, d'arriver. Puis je vois la page. Ah, non, ça marche plus. Aujourd'hui, il y a la 4G. Ouais. T'as même pas commencé à charger que déjà la page, elle est là. Et la page, elle vient même avant que tu tapes dans Google. C'est tellement fort. Nous avons la source plus que la 4G. L'infinitude G, si vous voulez. Et nous, on continue à nous brancher avec un petit modèle. Et de nous contenter de gouttes d'eau, d'amour. Et on dit, Seigneur, je me sens sec.
Ouais.
Ben, change de modem. Eh, change de forfait. Eh, c'est illimité, mon gars. Tu peux y aller, hein. Tu peux y aller. C'est tout compris. Et Dieu nous invite à nous connecter à la source, de nous laisser transformer par son amour, afin que cet amour transpire et transverse au travers de nos cœurs et de nos corps à ceux qui sont autour de nous. Et c'est la même chose dans un couple. Quand ça commence à devenir le désert, c'est parce que quelque part, au lieu de se brancher à Dieu, on a voulu se brancher sur l'autre. Et quand on commence à se brancher sur l'autre, on passe du service à la manipulation. On passe de « ça me ferait tellement plaisir de te faire plaisir » à « fais-moi du bien, tu ne m'aimes plus, tu ne me fais plus de bien ». La seule façon qu'on ait de pouvoir aimer l'autre, c'est de rester connecté à la source. Et cette source est intarissable. Et abuser de cela, tous les jours, c'est illimité. Comment fait-on pour renouveler son amour pour l'autre? Il faut pardonner. C'est le chemin du pardon. Vous allez en parler en février. Le chemin du pardon est un long chemin. Souvent, je rencontre des frères et sœurs qui culpabilisent parce qu'ils ont pardonné et pourtant, ils n'arrivent pas à oublier. Le pardon, ce n'est pas forcément l'oubli. Le pardon, c'est un choix, mais c'est un choix aussi quotidien. C'est choisir de pardonner tous les jours. Je choisis de pardonner. C'est le titre d'un livre de Diane Collard. Je vous invite vraiment à le lire. Si vous avez une difficulté ou un intérêt quelconque pour ce sujet-là, lisez son livre « Je choisis de pardonner ». L'histoire d'une femme qui a choisi de pardonner à celui qui a pris la vie de son fils. Et à chaque fois qu'elle accueille chez elle sa petite fille, qui grandit sans son père, elle choisit de pardonner encore une fois à celui qui a pris la vie de son fils. Et tous les jours, face aux conséquences du péché, elle choisit de pardonner. Le pardon, c'est quelque chose qui se fait tous les jours. C'est pas facile de vivre avec les conséquences du péché d'autrui dans sa vie. C'est pour ça qu'on a besoin de son pardon. Et de pardonner nous aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est notre prière. Notre prière quotidienne. Comme nous demandons à Dieu notre pain quotidien, quotidiennement, nous pardonnons les offenses à ceux qui nous ont offensés. Quotidiennement. Tous les jours. Sans vouloir prophétiser, vous allez devoir exercer beaucoup de pardon cette année. C'est pas facile pour une église de changer de lieu de culte. Alors on s'aime, on s'apprécie, on chante ensemble, on fait des agapes. Et puis on s'interroge. Pourquoi changer? Mais ça coûte. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Et alors, on est tenté de partager cela avec un frère qui lui comprend. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, cette histoire-là, hein? Toi et moi, on est dans le Seigneur. Le test théologique, on le connaît, hein. Mais t'en penses quoi, toi? Entre nous, là, entre nous. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? T'es d'accord, non? Je pense que la raison pour laquelle t'es pas allé le voir, c'est parce que tu sais pas où il habite. Alors, je vais te donner son numéro de téléphone. Comme ça, tu peux aller le rencontrer et lui parler toi-même. Comme ça, ça ira plus vite. Parce que la triangulaire, ça fait faire des angles morts, tu vois. Donc, tu vas là-bas, ça va plus vite. Et la deuxième des choses, c'est que la semaine prochaine, je te demanderai, est-ce que tu es allé lui parler? Ok? Et si tu n'es pas allé lui parler, eh ben à ce moment-là, je te mettrai dans ma voiture et on ira ensemble chez lui. Comme ça, tu pourras lui parler. Évitons les triangulaires. Si vous ne savez pas, si vous avez des doutes, si vous n'êtes pas d'accord, allez parler avec la personne concernée. Exercez l'amour. Exercez l'amour les uns avec les autres. Soyez patients les uns avec les autres. Ne vous mordez pas. Ne vous dévorez pas. Je le dis parce que je connais des églises qui ont déménagé, ça s'est mal passé. Donc, exercez l'amour. Restez centré sur les autres. Cherchez le bien commun. Et si vous manquez d'amour, changez de forfait. C'est le deuxième test, le test théologique. Le test social, pardon. Après, c'est bien, vous suivez? Premier test, le test théologique. Deuxième test, le test social. On pourrait se dire, bon, ben là, la coupe est pleine. On va s'arrêter, il est presque midi. Et non, il reste un troisième test. Un troisième test, le test moral. Trois passages.
La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché.
Encore une fois, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Deuxième passage.
N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Dernier.
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère.
Jean est le disciple bien-aimé. C'est l'apôtre de l'amour. Et ce qu'il dit là, il le dit avec beaucoup d'amour. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est le test moral. J'étais une fois dans un train de nuit, et en face de moi, dans ce train couchette, il y avait un Australien. Et on commence à parler, il apprend que je suis pasteur, et il me dit, j'ai une question, jamais personne n'a pu y répondre. Alors j'ai dit, je t'écoute mon bonhomme. Et fait, vous les chrétiens, vous dites que Dieu ôte le péché. C'est ça, par Jésus. J'ai fait, jusque là... C'est bon, c'est le test théologique. Et il me dit, alors si Jésus ôte le péché, pourquoi est-ce que vous continuez à pécher? Alors, je dis ça, c'est une bonne question. Parce que s'il ôte, il n'est plus là. Donc comment est-ce qu'il peut à la fois l'ôter et puis vous continuez à le faire? C'est qu'il n'a pas ôté la première fois. J'ai dit, Seigneur, viens en aide à ton serviteur. Et je dis, tu sais, t'as raison. Tu as raison, le péché c'est un non-sens. Pour un chrétien, c'est un non-sens. Parce que le péché, dans l'Écriture, c'est quelque chose que tu fais contre quelqu'un. Le péché est par nature relationnel. Tu pèches contre quelqu'un. On pèche toujours, un, contre Dieu, deux, souvent contre nous-mêmes, trois, bien souvent aussi envers les autres. John Piper disait, péché, c'est ce que tu fais lorsque tu n'es pas satisfait avec Dieu. J'aime ça. Péché, c'est ce que tu fais lorsque tu n'es pas satisfait avec Dieu et que tu dis à Dieu, je vais trouver mon bonheur ailleurs qu'en toi. Péché, c'est vouloir trouver sa satisfaction, son bonheur, ses besoins ailleurs qu'en Dieu. C'est dire à Dieu, tu ne me suffis plus. Tu ne me suffis pas. Comment est-ce qu'on peut dire ça à Dieu? C'est un non-sens. Parce que Dieu est plus riche, Dieu est plus aimant, Dieu est plus... Dieu est plus que plus que plus. Pourquoi est-ce que nous festoyons sur des miettes alors que lui nous offre le banquet? Vous comprenez ça? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas quelle est, pourquoi notre propension à quitter la table du banquet pour se réjouir sur des miettes. Je ne comprends pas. Et c'est une véritable tension. C'est pour ça que Jean nous rappelle.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier.
C'est pour ça que nous avons besoin de confesser nos péchés. La maturité spirituelle à laquelle Dieu nous appelle, ce n'est pas de dire « je ne pêche plus ». Parce que Jean le dit, si tu dis « ah, je ne pêche plus », t'es un menteur. Déjà, on va demander à ta femme. Pour ceux qui sont mariés, c'est une matrice de sanctification, le mariage. Donc on ne peut pas dire « je ne pêche plus », parce que si on dit « je ne pêche plus », on est menteur, et c'est vrai, on pêche. Alors, il y a les péchés de commission. Les péchés de commission, c'est tout ce qu'on ne devrait pas faire et qu'on fait. Et puis après, il y a les péchés d'omission. C'est tout ce qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire. Parce que quand Jacques il dit, si vous savez faire ce qui est juste et vous ne le faites pas, c'est un péché. Ah, c'est compliqué, hein. C'est qu'il y a plus que les 10 commandements. Il y a tous les commandements qu'on omet. La maturité spirituelle à laquelle Dieu nous appelle, c'est de nous repentir de plus en plus vite. Notez bien. La maturité spirituelle à laquelle Dieu nous appelle, c'est de nous repentir de plus en plus vite. De plus en plus vite. Et lorsque nous péchons, que ce soit de commission ou d'omission, de revenir à la croix et de dire, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Nous devrions avoir une telle acuité spirituelle, une telle sensibilité spirituelle, que lorsque nous nous emportons devant une sœur, dans la minute qui suit, on devrait pouvoir demander pardon. Dans la minute qui suit. Ça, c'est la maturité spirituelle. C'est pas de dire, ma sœur, je ne m'emporterai jamais contre toi. C'est faux. Mais c'est, si je m'emporte contre toi, je veux dans la minute suivante te demander pardon pour cela. Dans nos familles, dans nos couples, à l'église, que nous marchions dans la transparence, dans l'authenticité. Jean dit,
si quelqu'un voit un frère commettre un péché, qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort.
Quelle est la raison pour laquelle vous venez à l'église ? Pour écouter la chorale ? Un bon sermon ? Par habitude ? Laissez-moi vous partager un secret. La raison pour laquelle on vient à l'église, c'est parce qu'on a besoin les uns des autres. Parce que juste venir avec ta Bible et ton Saint-Esprit, ça ne suffit pas. Tu as besoin des autres pour grandir dans ta foi. Et la raison pour laquelle je viens à l'église, c'est parce que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous. Pour me dire, Raph, fais gaffe là. Pour nous exhorter, pour nous encourager à marcher dans ce chemin-là. Pour nous aider à nous repentir de plus en plus vite. Le salut auquel nous adhérons n'est pas simplement un salut pour le passé. C'est aussi un salut pour le présent. Nous avons été sauvés, mais nous sommes encore sauvés aujourd'hui. Nous sommes encore sauvés. Et nous serons aussi sauvés le jour où il nous prendra avec lui en glorification. Et de penser que tu peux aller de la justification à la glorification sans passer par le chemin de la sanctification, ça n'existe pas. Nulle part dans la Bible est-ce que tu peux avoir une garantie que parce qu'un jour tu as levé la main et aujourd'hui tu fais ce que tu veux, que demain tu rentreras dans la félicité. Aucun texte ne te permet de le dire. Aucun. On a autant besoin de la croix hier qu'on a besoin de la croix aujourd'hui, qu'on a besoin de la croix demain. C'est ça qu'il dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Maintenant, il intercède pour nous. Et le salut auquel nous nous réclamons, il est passé, il est présent, il est futur. J'ai été sauvé, je suis sauvé, je serai sauvé. J'ai besoin de la croix tous les jours. Je ne peux pas simplement regarder dans le passé en disant c'est mon assurance vie. Maintenant je fais ce que je veux. Oh là là, c'est le faux évangile. Si vous avez cru au Seigneur Jésus simplement pour échapper à la punition du péché, vous faites fausse route. Jésus n'est pas intéressé seulement de vous libérer de la punition du péché qu'est l'enfer. Il veut vous transformer tous les jours à l'image de son Fils Jésus-Christ. C'est ça. Jésus veut ôter ton péché maintenant. Il veut te sauver de ton péché aujourd'hui afin de te transformer dans l'image de son Fils. Et ça prend du temps. Parce qu'avec les caractères de cochon qu'on a, il y a du travail. Et on ne dit pas simplement « Je suis chrétien, je suis pardonné, tu fais avec moi, tant pis. » Non. On est tous dans la même galère, on a tous besoin d'être sauvés encore aujourd'hui, on a tous besoin de transformation, on a tous besoin de se repentir et de plus en plus vite. C'est ce qu'on appelle le test moral. Trois tests de la foi pour rassurer notre cœur. Le test théologique, le test social, le test moral. Et je remercie Jean, je remercie Dieu. Parce qu'il ne veut pas qu'on passe notre vie à se demander si oui ou non on est dans la vérité. Il nous le dit. Tu veux le savoir ? C'est facile, mon ami. Alors, deux choses. Ou bien vous êtes sur votre chaise et vous vous dites « Merci Seigneur, parce que je suis dans la vérité. Parce que ta parole me le dit. Et je me réjouis. Et Seigneur, donne-moi de continuer à marcher dans cette vérité. » Ou alors, votre cœur bat la chamade et sur votre chaise, vous vous dites « Oups, j'ai un problème. » Alors, parlez-en. Vous savez vers qui vous tournez. Peut-être que vous êtes venu avec quelqu'un pour la première fois dans cette église et vous pouvez parler avec celui ou celle avec qui vous êtes venu, qui puisse vous en dire plus sur ce salut merveilleux. Ou alors vous pouvez parler à l'équipe pastorale. Mais ne faites pas le malin devant Dieu. Parce que la Bible est claire. Ce que l'on sème, on le récolte. Ce que l'on sème, on le récolte. Je regarde ces trois tests et puis je me dis finalement, c'est ce que Jésus a dit. Écoutez.
Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans l'amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite.
Extraordinaire. En fait, les trois tests, c'est notre relation au Dieu trinitaire. Où nous confessons le Fils, nous aimons selon le Père et nous marchons dans l'Esprit. C'est ça, être né de Dieu. C'est ces trois choses-là. C'est confesser le Fils, c'est aimer comme le Père aime, et c'est marcher dans l'Esprit. Alors, que votre joie soit complète. Que votre joie soit parfaite. Soyez rassurés. Soyez encouragés. Dieu vous bénisse.